Heidi. Une histoire de Johanna Spyri. Du charmant petit village de Mayenfeld part un sentier qui serpente à travers la forêt avant de monter vers les alpages. Par un chaud matin du mois de juin, une jeune femme grimpait le long de cet abrupt sentier. Elle tenait par la main une petite fille aux joues écarlates. C'était sa nièce, Heidi. Quand ses parents étaient morts, il y avait longtemps déjà, l'enfant avait été recueilli par sa tante Dette. Mais Dette venait de trouver une excellente place de gouvernante à Francfort et elle n'y aurait renoncé pour rien au monde. Ce jour-là, elle conduisait donc Heidi chez son grand-père. « Comment peux-tu faire une chose pareille ?» s'était écriée sa meilleure amie. Ah, elle le connaissait, le grand-père, ce vieil homme bourru à la barbe hirsute qui vivait tout seul là-haut dans sa cabane. Mais Dette n'en démordait pas. Elle avait fait son devoir pendant 4 ans. Maintenant, c'était au tour du grand-père de s'occuper de l'enfant. Après le départ de Dette, Heidi se retrouva seule avec le grand-père. Il était assis sur le banc en bois devant son chalet et fumait tranquillement la pipe. Soudain, il se leva, puis revint avec un bol de lait bien mousseux qu'il tendit à Heidi. « Je n'ai jamais bu un lait aussi bon !» déclara Heidi qui avait tout avalé d'une traite. « C'est le lait de Blanchette et de Noiraude, mes 2 chèvres !» lui dit le grand-père. « Tu voudrais bien me montrer ta maison ?» osa alors demander à Heidi. Avec curiosité, elle observa l'unique pièce du chalet. « Où vais-je dormir, grand-père ? » s'étonna Heidi qui ne vit qu'un seul lit.
« Où tu veux ? » rétorqua-t-il.
Le soir venu, c'est dans le grenier qu'Heidi décida de faire son lit. Dans le toit, il y avait une petite lucarne ronde d'où l'on pouvait voir toute la vallée. « Comme c'est beau !» s'émerveilla Heidi. Le lendemain, Heidi se réveilla de bon matin. Peter, le petit chevrier, était déjà là, entouré de son troupeau. Le grand-père sortit de l'étable Blanchette et Noiraude, qui se mêlèrent aux autres chèvres en sautillant et en bêlant joyeusement. « Veux-tu aller avec Peter dans les alpages ?» demanda le grand-père à Heidi. Pour toute réponse, Heidi sauta de joie. Tout au long du chemin, Heidi cueillit primevères et boutons d'or qu'elle déposait avec soin dans son tablier. Ses fleurs étaient pour le grand-père. La journée passa à toute allure. Et quand le soleil commença à décliner, Peter annonça qu'il fallait rentrer. Dès qu'elle aperçut le grand-père, assis comme à son habitude devant le chalet, Heidi courut lui offrir son bouquet. Mais quand elle ouvrit son tablier, toutes ses fleurs étaient fanées. « Les fleurs sont faites pour vivre dehors, au soleil, pas dans un tablier !» la consola le grand-père en riant de bon cœur. Chaque jour, Heidi accompagnait Peter dans les alpages. Mais à présent, l'automne s'installait et il faisait trop froid pour rester au grand air des journées entières. Un matin où elle se réjouissait d'aller voir la grand-mère de Peter, qui attendait depuis longtemps sa visite, Heidi découvrit pour la première fois la montagne couverte d'un épais tapis de neige. Heureusement, le grand-père avait une luge et ils descendirent sans encombre jusqu'à la vallée. La vieille dame était aveugle et ne pouvait plus profiter du spectacle des montagnes. Alors Heidi lui décrivit les magnifiques paysages et lui raconta avec fougue tout ce que le grand-père lui avait appris. « Pourvu qu'elle revienne !» soupira la grand-mère quand Heidi fut partie. « Elle est si joyeuse !» Dès le lendemain, Heidi revint voir la grand-mère, et pendant que toutes deux discutaient, le grand-père rafistola les volets qui claquaient au vent. La vieille dame allait de nouveau pouvoir dormir tranquille. L'hiver passa, puis l'été, puis de nouveau ce fut l'hiver qui touchait déjà à sa fin. Au printemps, Dette vint rendre visite au grand-père et à Heidi. Le grand-père observa d'un œil réprobateur son extravagant chapeau à plumes. Mais Dete ne se laissa pas décontenancer et expliqua qu'elle avait fait la connaissance d'une très riche famille de Francfort, les Sesemann. Ces gens avaient une fille unique, Clara, immobilisée dans un fauteuil roulant, et ils cherchaient une petite fille gaie et pleine de vie pour lui tenir compagnie. Quelle chance ce serait pour Heidi !
« Emmène-la avec toi !» lui répondit le grand-père furieux. « Mais qu'elle ne revienne jamais ! Je ne veux pas la voir transformée en une jeune fille frivole comme toi !»«
Si je vais à Francfort, je pourrais rentrer chaque soir ici ?» demanda Heidi pétrifiée.
« Tu pourras revenir ici quand tu voudras, » répondit rapidement Dete. « Mais il se fait tard, nous devons partir. » Quand elles passèrent devant la maison de la grand-mère, Heidi voulut s'arrêter pour lui dire au revoir. Mais Dete accéléra le pas. « Tu lui rapporteras un petit cadeau, quelque chose de bon, des petits pains blancs tout moelleux, par exemple. Je suis sûre que cela lui ferait très plaisir. »«
Quelle bonne idée !»
se réjouit Heidi, réconfortée. Dès son arrivée à Francfort, Heidi fit la connaissance de Clara et de la sévère mademoiselle Rottenmeier, qui décida de l'appeler par son vrai nom de baptême, Adélaïde. Depuis la mort de Madame Sesemann, mademoiselle Rottenmeier était devenue la maîtresse de maison et s'occupait aussi de l'éducation de Clara, car son père était souvent absent. Clara attendait avec impatience de rencontrer sa nouvelle amie.
« Je suis si heureuse que tu viennes me tenir compagnie et suivre les cours avec moi !» s'exclama Clara. « Je suis sûre qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Les jours étaient devenus si monotones pour moi. »
Mademoiselle Rottenmeier était loin de partager l'enthousiasme de Clara.
« Cette fillette est une calamité !» expliqua-t-elle dès le lendemain au précepteur. « Non seulement elle ne sait pas lire, mais de surcroît je vais devoir lui apprendre les bonnes manières. »
Heureusement, Heidi trouva un allié en Sébastien, le valet. Lui, au moins, répondait gentiment à ses questions. Et chaque soir, il posait près de son assiette un petit pain blanc qu'elle faisait aussitôt glisser dans sa poche pour le rapporter à la grand-mère. Très vite, Heidi se languit du bruissement du vent dans les sapins. Par sa fenêtre, elle ne voyait que des murs gris. Alors, quand elle aperçut au loin un clocher, elle sortit à toute allure dans la rue. De là-haut, elle reverrait enfin ces chères montagnes qui lui manquaient tant. Avec le prêtre, elle grimpa jusqu'au sommet du clocher.
« Ce n'est pas du tout ça que j'espérais voir, » dit tristement Heidi,
qui ne découvrit rien d'autre qu'un océan de toits gris. Pour la consoler, le prêtre lui offrit deux chatons que sa chatte venait de mettre au monde. Il lui promit même de lui faire apporter les quatre autres chez Clara. Ravie, Heidi rentra en courant, les chatons calés dans la poche de son tablier.
« Qu'est-ce que ces affreuses bêtes font là ?» hurla mademoiselle Rottenmeier, épouvantée lorsqu'elle entendit les chatons miauler. « Sébastien, débarrassez-moi de ça !» ordonna-t-elle.
« Sébastien, je vous en prie, aidez-nous !» supplia Clara. « Voulez-vous bien trouver une cachette à ces adorables chatons ? Heidi et moi aimerions tant les garder !»
Amusé, le valet s'exécuta de bonne grâce et trouva une douillette corbeille où installer les chatons. Puis les jours s'écoulèrent plus tranquillement, jusqu'au matin où, pendant la leçon, on livra une mystérieuse corbeille pour Clara. Le précepteur poursuivait sans broncher ses explications quand le couvercle de la corbeille s'ouvrit, laissant s'échapper quatre chatons.
« Sébastien ! Sébastien !»
hurla mademoiselle Rottenmeier. Le valet attrapa vite les chatons, qui rejoignirent sans tarder les deux premiers. Un peu plus tard, mademoiselle Rottenmeier entrait de nouveau dans une terrible colère. Soucieuse de donner d'anciennes robes de Clara à Heidi, elle avait entrepris de mettre un peu d'ordre dans son armoire.
« Adélaïde ! » cria-t-elle bientôt. « Qu'est-ce que je vois ? Du pain dans une armoire. Et ce vieux chapeau de paille, que fait-il encore là ? Sébastien, veuillez jeter tout ça !»
Heidi éclata en sanglots,
Mais Sébastien lui lança un clin d'œil plein de réconfort, qu'elle ne s'inquiète pas. Il allait tout arranger.
Le lendemain, une grande agitation régna dans la maison. Monsieur Sesemann était de retour. Mademoiselle Rottenmeier s'empressa de lui dire qu'il fallait immédiatement renvoyer la petite Heidi qui se permettait toutes les insolences. Mais Clara défendit si chaleureusement son amie que l'affaire fut vite close. « Heidi restera avec nous, » déclara Monsieur Sesemann. « Et elle sera traitée comme ma fille. » Alors que Monsieur Sesemann devait déjà repartir en voyage, la grand-mère de Clara annonça sa venue. De nouveau, la maison fut en ébullition.
« Alors voici notre petite campagnarde !» s'exclama-t-elle quand Heidi vint la saluer.
« Je suis la grand-mère de Clara. Et comme elle, tu m'appelleras Bonne Maman. » Cette grand-mère plut tout de suite à Heidi. Et puis, elle avait apporté de beaux livres d'images. Dès lors, à la stupéfaction du précepteur, Heidi apprit à lire sans difficulté. Quand Bonne Maman s'en retourna chez elle, elle laissa un grand vide dans les cœurs. L'hiver succéda à l'automne. Heidi souffrait de plus en plus du mal du pays. Elle rêvait des montagnes, de Peter et de ses chèvres, des boutons d'or qui allaient éclore sous les rayons du soleil. C'est alors qu'il se passa un bien étrange phénomène chez les Sesemann. Chaque matin, on trouvait la porte d'entrée grande ouverte, alors qu'elle avait été soigneusement fermée à clé la veille. Terrorisée à l'idée que des fantômes puissent rôder dans la maison, Mademoiselle Rottenmeier pria M. Sesemann de rentrer sur le champ. Celui-ci ne prit guère au sérieux cette histoire de revenant, mais inquiet pour sa fille, il rentra. Le soir même, avec son vieil ami le docteur Klassen, il monta la garde pour voir à quel fantôme ils avaient affaire. Aux environs de minuit, ils entendirent la clé tourner dans la serrure et la porte s'ouvrir. Les deux hommes surgirent aussitôt dans le corridor. « Qui va là ?» hurla le docteur. La douce lumière de la lune éclairait une forme blanche qui se tenait immobile sur le seuil. C'était Heidi. Le docteur ne mit pas longtemps à comprendre de quel mal souffrait la pauvre enfant. « Mon ami, dit-il, Heidi est somnambule. Les montagnes et son grand-père lui manquent tant qu'elle est devenue affreusement agitée. Pour la guérir, il n'existe qu'un seul remède. Heidi doit respirer le bon air des alpages. » Bouleversé, M. Sesemann réveilla sans plus attendre tous les domestiques pour organiser le voyage d'Heidi. Clara fut très attristée par cette nouvelle. Mais elle tint absolument à préparer la valise de son amie, où elle entassa robes et foulards. Toutefois, c'est en découvrant le panier rempli de petits pains blancs qu'Heidi bondit de joie. Rien n'était plus important à ses yeux. Un long voyage commença. Heidi avait du mal à contenir son impatience. Enfin, elle arriva à Mayenfeld. Le cœur battant, elle courut jusqu'au chalet du grand-père. « Grand-père ! Grand-père ! Je reviens vivre chez toi !» cria Heidi. Quel bonheur ce fut pour le grand-père de retrouver sa petite fille ! Cette nuit-là, Heidi s'endormit paisiblement, bercée par le doux bruissement des sapins. Au printemps, une grande surprise attendait Heidi, la visite de son amie Clara. Si Heidi était folle de joie, Peter était furieux, il n'aurait plus son amie pour lui seul. « Je ne savais pas que d'aussi beaux paysages existaient !» s'extasia Clara sitôt arrivée. Puis, elle fit la connaissance des chèvres et de Peter qui n'avait pas quitté son air renfrogné. Quelques semaines plus tard, une excursion fut enfin organisée dans les alpages, ce qui mit Peter hors de lui. Lorsqu'il arriva chez le grand-père ce matin-là, il posa un regard plein de haine sur le fauteuil roulant de Clara et sans plus réfléchir, il le poussa de toutes ses forces dans le vide. Maintenant, l'étrangère allait devoir rentrer chez elle. Bien sûr, il n'en fut rien. Mais ce geste insensé allait provoquer un véritable miracle. Privée de fauteuil, Clara osa poser un pied par terre, soutenue par Peter et Heidi.
« Ça y est, je marche ! Heidi, je marche comme toi !» s'exclama Clara les larmes aux yeux.
Le jour du départ, les adieux furent longs mais sans tristesse, car Clara reviendrait désormais chaque été et les deux amis pourraient se promener ensemble dans les alpages.